Un phénomène inquiétant à présent, de plus en plus de Français se passionneraient dangereusement pour les jeux en ligne. Deux d'entre eux ont même dû être hospitalisés dans un établissement psychiatrique. Bazinga.
Il ne se nourrissait plus, il s'est enfermé dans sa chambre 3 semaines durant en se prenant pour son avatar, un elfe de la nuit. Bazinga.
On constate aujourd'hui que les séries sont parfois beaucoup plus violentes que les films. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, qui sont terribles. Bazinga!
Quand vous citez Mediapart, qui se dit site d'information, ça n'est pas un site d'information. C'est un site de ragots. Bazinga!
Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporg.
Bazinga!
Ils ont des épées géantes et ne reculent devant rien. On les appelle les otaku.
Bazinga!
Je suis ingénieur en informatique, je me sens bien avec les ordinateurs.
Bazinga!
De manière générale, la liberté pratiquement totale qui règne sur Internet, qui se joue des frontières, permet de créer des réseaux qui peuvent se révéler donc très très dangereux.
Bazinga!
Calmez-vous les gars.
Ça sature.
Excellent Wayne.
Bienvenue dans Bazingcast 14. 14, le numéro atomique du silicium.
Ouais, remarque, pour une fois, il est bien celui-là.
L'âge à laquelle on peut conduire aux US si on a le permis et accompagné d'un adulte.
Alors que tu ne peux pas boire avant 21 ans.
Ça dépend des états. Pour
ça dépend des états, tout à fait.
Et pour la sodomie, ça dépend des états aussi.
Oui. Aujourd'hui, c'est toléré.
Si, rien. On précise quand même qui a dit ça. Bon, je vais passer le reste. Sinon, oui.
Ouais, c'est chiant.
Ouais, ça te fait chier. Hein, ok. Alors, avec nous ce soir, nous avons un chauve anarchiste. Salut, Crémin.
DSK revient, DSK revient, DSK revient parmi les siens.
Oh, c'est du blasphème.
C'est du blasphème. On a un extraterrestre qui lui a des cheveux et qui ne cesse d'étudier nos comportements. Bonjour.
Ouais, mais comme il a pas son casque, je pense qu'il t'entend pas.
Bonjour les gens.
Voilà, il a pas son casque et il tapote.
Ouais, mais il a une enchère eBay, hein. Un préservatif usagé de Mick Jagger. Et c'est va bientôt arriver.
Je pense pas qu'il sache qui c'est que Mick Jagger.
Ah, pardon.
Un troller invétéré, maître de la boîte à jingle. Salut, Trollin.
C'était pour dire que c'était bien moi.
Ah ouais.
Assez faible, je sais, je suis désolé. C'est quoi,
sans conteste, la plus belle de toutes les femmes ici présentes, Micha. C'est malin.
Salut.
Salut, Micha.
Micha qui est en train de jouer au Boggle sur son téléphone. Tout se perd, tout se perd.
C'est tellement intéressant, là, le début.
Ah, mais je vous emmerde.
Sincèrement, c'est le seul moment que j'écoute.
14 comme... 14...
Ouais, t'as rien à dire. Et enfin, notre
comme
invité...
Comme l'isotope du carbone utilisé pour la datation.
C'est un nombre magique. Du carré magique à trois bords. Mais bref. On a donc aujourd'hui notre invité, encore une fois, le docteur Yayen, femme médecin. Salut Yayen.
Salut.
Il revient parce que bon, c'est l'été, il est en vacances. Et puis mine de rien, quand on a des invités, on travaille moins. C'est bien les invités. On remercie tous ceux qui ont mis des commentaires sur iTunes, sur le site, etc. Mais ça se relâche un peu. Je sais pas si c'est les vacances ou quoi.
Rappelez-vous du prix.
Exactement.
Les frères Bogdanov chez vous.
Waouh, trop fort. Justement, pendant les vacances, donc on sera là, mais un peu en plus light. Donc les débats reprendront à la rentrée. Et d'ailleurs, on est en manque un peu de sujets. Donc on va profiter de l'été pour essayer d'accumuler des sujets. Donc vous êtes les bienvenus. Si vous avez des idées, tout ça, balancez-nous des idées sur Twitter, via le site.
C'est du podcast à l'aspartame. Hein.
Exactement. C'est cancérigène en tout cas. Donc ouais, donnez des sujets de débat très variés, hein, tout ce qui vous passe par la tête, on étudiera ça, valou valou. Ce soir on va parler de news diverses et variées avec moi, une rubrique de Micha aussi. De quoi vas-tu nous parler, Micha?
Des applis pour préparer les vacances.
Les applis, ça pue.
Les applis iPhone, tout ça, tout ça. On va avoir une rubrique de Krilin qui va parler de...
C'est ce soir, moi?
Oui, c'est ce soir, toi.
Ah merde, je pensais que c'était dans 2 semaines.
Bah, sans,
oh bah,
vu qu'on enregistre les deux épisodes le même soir, tu n'as pas d'excuses.
Ouais, bah, je trouverai un truc, je parlerai de...
De Catacombes de Paris ?
Ouais, ouais, je tiendrai 5 minutes là-dessus.
D'accord. Et on vous fera une petite rubrique culture généraliste. Ok, super. Eh bien, on va partir sur les news. Yo, bon, bienvenue dans les news. Première news, nous allons parler des terres rares. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est que les terres rares ?
C'est yep. Comme un terra, mais avec un R après.
C'est comme Terraria, le jeu vidéo qui est sorti il y a 2 mois ?
Non.
C'est ce qui sert à fabriquer pas mal de trucs, genre les tablettes et...
Ouais.
Heureusement qu'il y a
des métaux, des...
Heureusement que la science est parmi nous.
Recherchée.
Voilà, c'est des groupes de métaux... De métaux. De métaux en propriété très voisine et qui sont utilisés beaucoup en électronique, surtout pour les dalles LCD, pour les batteries, pour tout ce qui est
c'est ça qui est prélevé au Congo par des enfants ?
Non, pas trop, en fait, parce qu'en fait, c'est surtout présent en Chine. En fait, c'est pas rare du tout, c'est diffusé un peu partout, mais le fait que ce soit présent dans une concentration assez intéressante pour que ce soit financièrement exploitable... ça pour le coup c'est rare et c'est pas du tout réparti sur le globe. La Chine a à peu près 50% des réserves, mais ils font
enfin, avait
mais...
50% des réserves jusqu'à la news que tu vas annoncer.
Oui. Mais
Ah, les spoilers.
Bah écoute, hein, il dit c'est news
grader. Le podcast qui fait l'économie.
Marc Fiorentino. Mais il contrôle aujourd'hui 90% de la production et je pense que ça va pas changer tout de suite. Principalement d'ailleurs en Mongolie intérieure et au Tibet.
Avec que des pays bien à eux quoi.
Voilà.
C'est pas les Mongols qui vont se rebeller.
Enfin, si.
Bah, vu qu'ils font leurs expériences de bombes atomiques dans le désert de Mongolie, si. Enfin, non, ils vont pas se rebeller, non.
Et d'ailleurs, ils s'amusent à faire. Vu qu'ils ont le monopole, ils font monter les cours en limitant l'exportation, en disant ouais.
C'est étonnant de la part des Chinois.
Non, mais c'est pour des raisons écologiques. Parce qu'ils disent ah ouais, mais quand même, ça salit ouais. L'environnement d'exploiter ça, donc. donc ça a quand même une forte dimension stratégique, donc on a quand même du mal à trouver des chiffres, mais en gros on dirait qu'il reste, a priori avant en 2010, on pensait qu'il y avait 110 millions de tonnes de réserves, et là des scientifiques japonais affirment qu'on a retrouvé plein au fond de l'océan Pacifique.
Ouais, temps, juste à côté de Fukushima.
Plein, c'est...
Non, en même temps, voilà, c'est
plein,
ça, c'est
le... 110 milliards en fait.
Voilà, donc c'est 1000 fois plus que les réserves mondiales.
C'est-à-dire le pays, il a juste développé une technologie pour exploiter ses ressources, c'est-à-dire qu'en France, le jour où on exploitera les grèves, bah voilà, quand on sera les rois du pétrole, quoi.
Ou les rois de la grève, mais on l'est déjà.
Ils n'ont pas, développé de technologie. Hein. Pour le moment, c'est juste qu'ils ont trouvé un immense gisement. Et ils considèrent que développer des technologies pour l'exploiter ne serait pas un gros problème. Par contre, ça risque de pas mal polluer.
Donc c'est à 3000 mètres de fond, c'est dans les eaux internationales, donc si tout le monde s'y met, ça va y aller gaiement et tout le monde va dégueulasser le bordel, surtout que quand c'est sous l'eau, on sait très bien qu'au niveau écologique, on fait bien moins gaffe. On peut voir l'exemple des chaluts où on n'a pas de...
D'Oussama Belmadet.
Il n'y a pas d'image en fait, il n'y a pas de truc choquant pour le grand public, donc généralement c'est...
C'est peut-être Oussama, hein.
C'était Oussama, ouais.
Qui s'est converti en terreur. Ouais, c'est ça, c'était avant, c'était à War on Terror et maintenant c'est à War on Terror.
Oh la vache! Non, mais le plus terrible en plus, c'est qu'il n'y a rien à boire ce soir. On est sec, donc ça va être difficile. Ce qui est assez paradoxal, c'est que, justement, par rapport à la pollution, une des plus grandes utilisations de ces terres rares, c'est la conception d'accumulateurs, d'aimants ou de trucs qui servent pour produire des énergies renouvelables ou les utiliser, donc les moteurs électriques, les moteurs hybrides, les éoliens, etc. Soit un secteur qui boom. Donc en gros, comme d'habitude, ça va être dans beaucoup de cas, la croissance verte, pseudo-verte.
La course à la pollution pour...
Et qui va avoir des effets indirects, etc. etc.
Des
etc.
voitures qui polluent le plus à la production, c'est la Prius, par exemple.
Exactement. Bah, ça fait aussi penser aux panneaux solaires de l'époque et toujours maintenant, etc. Enfin, tout ce qui... Dès qu'on commence à produire électronique, c'est quand même très difficile de calculer le coût général, global, de pollution, à la fois pour l'extrait du minerai, à la fois pour la gravure électronique. Ça reste quand même l'industrie la plus polluante du monde. Donc, bref, il va falloir faire encore plus... gaffe sur toutes ces énergies.
Tu allais peut-être en parler, mais ce sujet-là, il y a un truc qui, moi, m'intéresse pas mal, enfin, m'intrigue pas mal. Est-ce que quelqu'un sait qui, vu que ça se trouve dans les eaux internationales, va avoir le droit d'exploiter
tout le monde.
Ses ressources
tout le monde.
Oui,
dans le sens où il y a pas mal... Les premiers articles avaient sur le sujet avait l'air de suggérer que ça allait forcément être le Japon qui allait s'occuper d'exploiter ça, ce qui me paraît.
J'espère que le Corée du Nord va tenter sa chance.
Les eaux internationales, c'est comme pour le poiscaille, t'y vas et puis basta quoi.
Bah, en fait, là en l'occurrence, il va falloir qu'on soit un gisement, donc il va falloir un accord pour comment est-ce qu'ils vont se partager le. Tout le monde va mettre sa petite plateforme l'un à côté de l'autre.
C'est le premier arrivé, premier servi. Hein.
Mais justement, sur le même sujet, justement, au-dessus du entre le Canada et le Groenland, tu as un passage qui est en train de s'ouvrir du fait de la fonte des glaciers. Et en fait, tu as le Canada, les États-Unis et la Russie qui sont en train de se batailler pour dire ça, c'est à moi, ça, c'est une continuité de ma plaque continentale.
Sur les plaques continentales, c'est assez compliqué. Ouais.
Et voilà.
Mais là, pour les eaux internationales, c'est quand même vachement plus. Précis. Et d'ailleurs, la dernière fois qu'on a revu les délimitations des eaux internationales, c'est surtout la France qui en a bénéficié, parce qu'on est un des pays, je crois qu'on est le deuxième ou le premier pays au niveau possession de
mer. On dit merci au dom-tom.
De mer dans le monde, voilà, avec tous nos petits cailloux qu'on a un peu partout.
Contrairement à ce que je pensais, tu m'as annoncé, et je pense qu'on avait vérifié, qu'on était le premier.
On est le premier, oui, c'est ça, on est le premier. Et en ayant augmenté de je ne sais plus combien de milles des côtes, on a doublé nos. Enfin bref. Donc voilà, on possède de la flotte, c'est bien parce qu'il y a du poisson et peut-être des terres rares.
Et des éléments radioactifs. Wouhou!
Youpi! Oui, Fukushima. Enfin, ouais. Allez, on transisse.
Bienvenue sur France Inter. Ce matin, le trafic sur le périphérique.
On va parler de quoi? On va parler des apps Facebook et de la vie privée. On en avait déjà reparlé plusieurs fois.
Putain.
Pas tout le temps.
Oui, parce que moi, c'est un truc qui me touche beaucoup.
Quitter Facebook une bonne fois pour toutes.
Une fois qu'il y a
Bah, Google Plus.
On va en parler
après. Google Plus, voilà. Ça, c'est de l'info Google Plus.
On va en parler après de Google Plus. Donc, sur les apps Facebook, donc, on avait déjà conseillé de supprimer toutes vos apps, etc., celles qui ne vous servent pas. Mais là, il y a deux nouveaux plugins de navigateurs qui sont assez intéressants, qui s'appellent Social Monitor et YouProtect. La première, Social Monitor, fonctionne sur Firefox, Chrome et Safari. Et la deuxième, YouProtect, sur Firefox et Chrome. En gros, ça va analyser les apps que vous avez installées. Ça va vous filer des infos sur quelles autorisations elles ont. Est-ce qu'elles sont censées les avoir ou pas? Est-ce qu'elles ont des utilisations bizarres du genre « Pourquoi est-ce que je demanderais l'accès à vos messages privés, à ton relationship statut ?» Ce genre de choses.
Vous savez que Safari, c'est à peu près aussi secure que IE6.
Le troll du monde.
Non, c'est vrai. Parce que Apple a une réputation d'être super classe en sécurité parce que pendant très longtemps, il n'y avait pas de virus sur Apple puisque personne n'avait d'Apple. Et en fait, j'ai appris récemment que non, c'est des grosses quiches en sécurité, qu'ils en ont rien à foutre et que leurs failles, quand on leur soumet, ils s'en occupent que juste avant les conventions sur la sécurité pour pas qu'on parle trop d'eux. Mais
faut citer tes sources là maintenant.
Ouais, bah.
Non, mais c'est clair que dans ce domaine, ils sont particulièrement. Enfin, ils communiquent pas du tout sur les failles et. Oui, là-dessus, c'est connu qu'ils sont pas très bons.
Il n'y a pas si longtemps, ils demandaient à leurs opérateurs de ne pas indiquer comment réparer les problèmes d'iPhone qui avaient été pétés par un logiciel malveillant. Parce que ce n'était pas leur boulot et il ne fallait pas que les gens s'attendent.
Tout à fait. C'est un problème de communication. Quoi. Bref, ce qui est intéressant avec Social Monitor, c'est que carrément la boîte qui fait ça, ils font des études sur les développeurs d'appli pour essayer de leur calculer une réputation. Donc ils font ils investiguent en fait sur les différents développeurs pour savoir un peu qui c'est, qu'est-ce qu'ils ont fait comme autre app.
Putain, s'ils tombent sur toi, t'es mort.
Si statistiquement ils font des apps qui servent que à faire du data mining pour faire de la pub, des machins, des trucs. Donc bref, vous pouvez installer ça, ça va vous filer pas mal d'infos sur ce que vous devez garder ou pas. Et de toute façon, je pense qu'il faut en garder très peu.
En revanche, c'est vachement bien.
Et du manière générale, il faut supprimer toutes les apps parce qu'il y en a très peu dont on se sert.
Et je crois que j'étais pas là la fois où t'étais en train de pousser ta gueulante contre Apple qui interdisait les apps de dénonciation de la police. Ouais. Mais pervenche, ils en sont où?
Bah, c'est passé.
C'est passé? Mmh. Ah ouais. En plus d'être facho, ils sont mauvais, quoi.
Ouais, tu sais, en France, il n'y a pas beaucoup de monde qui check. Bref, voilà. Donc, on le rappelle jamais assez, il faut supprimer régulièrement toutes les apps qu'on a installées, surtout sur un coup de tête, ou en tout cas même les apps qu'on conserve, aller voir a posteriori, et on peut décocher sur Facebook les droits qui ne sont pas obligatoires pour les apps et les enlever. Là encore, on voit la différence de philosophie entre Facebook et Google. Il y en a un qui essaye au maximum d'empêcher, de complexifier les moyens de contrôler un peu les infos qui sont sur vous, sur Facebook.
T'es pas très bon ce soir.
Je suis assez mauvais ce soir. Et de l'autre côté, on a Google qui vient de sortir un truc qui est Google Takeout.
qui permet d'exporter toutes ces datas pour pouvoir sortir de Google. Et ça, c'est organisé par le Data Liberation. Donc, vous allez sur le site www.dataliberation.org. Et ça, c'est un site qui existe depuis un moment, qui est en gros une équipe de Google dont la mission, si tu veux, est de faire en sorte que dans tous les services Google, tu puisses en sortir en récupérant tes datas dans un format open. Et ils ont lancé ça le jour où ils ont entendu leur CEO Eric Schmidt dire How do you be big without being evil? We don't trap end users. So if you don't like Google, if for whatever reason we do a bad job for you, we make it easy for you to move to our competitors. Et donc ils se sont rendus compte à ce moment-là.
Traduis ça en français pour les gens qui n'ont pas compris ton accent.
Comment est-ce qu'on peut être grand sans être démoniaque? Nous, on n'enferme pas les utilisateurs. Si vous voulez quitter Google, eh ben vous pouvez le faire et aller à la compétition, enfin chez les concurrents. Et en fait, ils se sont rendus compte quand ils ont entendu ça que c'était pas si simple que ça de le faire. Donc ils se sont dit, le CEO a dit quelque chose, on va rendre la chose facile. Et donc ce site qui existe et qui explique pour chacun des services Google, même les plus petits, tous ne sont pas encore faits, mais comment sortir du système, ou en tout cas comment exporter ses datas, ses contacts, ses calendars, ses documents, ses machins, ses trucs, ses bidules. Donc encore une vision assez différente du système Facebook. Google Plus et Google Profile.
Oh, Google Plus.
Ah, ça vient de sortir.
Ouais, c'est un peu ça, ils sont tous fous là.
Google Plus, j'en parlerai pas trop parce que j'ai pas trop eu le temps de tester, mais je pense que.
Alors moi, j'ai un couple qui arrête pas de m'envoyer des invites et tout. C'est un couple démoniaque.
C'est qui?
Non, je sais pas, il est en train de dormir à moitié, Xil. Hein.
Non, Xil, je pense en parler un peu plus.
Je suis plus actif sur mon compte Google Plus.
C'est moi qui suis le plus actif, c'est
ouais.
Ça?
Ouais. Toi et Lily.
Moi, ce qui m'intéressait, en fait, c'est que les Google Profiles, donc, qu'on avait tous, mais qu'on n'avait jamais vraiment utilisé ou qu'on n'avait jamais vraiment activé avec Gmail, parce qu'on utilise un peu tous Gmail ici.
J'ai même désactivé, moi.
Voilà. Et bah là, en gros, tout d'un coup, on était obligé de le remplir pour pouvoir accéder à Google Plus. Donc tout le monde s'est mis à le remplir.
Non, il est vide.
Ouais,
oui, tu dois au moins l'activer et remplir deux, trois infos.
Non, alors, bon, a priori, personne ne sait exactement comment est-ce que Google autorise ou n'autorise pas les gens, vu qu'il n'y a plus vraiment de système d'invitation. En fait, les invitations, c'est tu partages des threads avec des gens qui n'ont pas Google+, et là, de temps en temps, ils peuvent s'inscrire, de temps en temps, ils ne peuvent pas s'inscrire. Mais pas mal de gens ont remarqué qu'ils semblent inscrire plus facilement les gens qui ont... déjà un Google Profile rempli ou un social graph important sur les services Google que les parfaits inconnus. Mais et ça semble relativement logique.
Par exemple, si tu essaies d'utiliser le plus dans les trucs de recherche, le plus 1, et là, il t'oblige à avoir un Google Profile.
Et notamment, vous pouvez utiliser plus 1 sur basingcast.com.
Exactement.
Et noter nos épisodes.
Je suis désolé, mais c'est quoi Google Plus?
Alors, Xil va t'expliquer après.
C'est Facebook de Google.
En gros, non, ce que je voulais dire, c'est que donc on a tous, à cause de ces raisons-là, commencé à remplir un peu le profile ou pas. Donc tu dois le faire pour utiliser le petit plus 1. Et en fait, Google a annoncé que tous les profils deviendront publics obligatoirement à partir du 31 juillet, donc après que les gens les aient remplis. Et là, juste et pour souligner encore une fois la différence de philosophie, je vais montrer pourquoi après. Ils disent donc, nous avons créé les profils Google afin de vous permettre de gérer votre identité en ligne, et aujourd'hui ces profils sont presque tous publics. Selon nous, la principale utilité des profils Google est d'aider les internautes à vous trouver et à vous contacter en ligne. Or, les profils privés ne permettent pas de le faire, et nous avons décidé de ne plus autoriser les profils privés.
Excellent.
Donc en gros, un truc assez classique que ferait Facebook, que ferait plein d'autres choses. La seule différence, en fait, c'est que eux, à la place de rendre public d'un coup tous les profils, eh ben en fait, ils vont pas faire ça. Ils vont détruire les profils privés et ne jamais les rendre publics. Mais ils vont pas forcer les gens à switcher en profil public, en fait.
Donc tu t'es fait chier à trop bien remplir ton profil privé.
Voilà, et ça, c'est désactivé. Mais au moins... contrairement à Facebook, si tu veux, du jour au lendemain, t'apprends pas en ayant regardé les conditions générales que tiens, tout d'un coup, toutes les infos font publiques alors que tu l'avais jamais demandé et t'as jamais eu le choix, quoi. Et je trouve ça plutôt sympa.
Ouais, ouais. J'ai beaucoup aimé Google et commence à prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'importance.
Bah là, on commence un peu à parler d'action antitrust, de ce genre de choses qui se profilent à l'horizon.
Enfin, moi, j'ai toujours trouvé enfin, c'est sûr, ils proposent beaucoup de services, mais tu donnes l'importance aux gens ou aux choses, l'importance.
Oui,
que
mais
tu
ils
leur
sont
donnes,
bons.
Enfin...
C'est ça le problème, c'est qu'ils sont très très bons.
Non, mais d'accord.
Mais... La plupart de leurs concurrents sur la même chose sont moins bons.
Personnellement, et... j'ai aucune idée de ce que vous parlez de Google Plus. Je suis désolé, mais
non,
j'ai
mais Google
de...
Plus, là, c'est le truc. C'est,
non,
le
c'est
truc
normal,
des,
ça vient de sortir.
Des bobos
ouais.
d'internet.
C'est vraiment le truc du geek.
C'est Facebook version Google, donc tous les fans de Google sont comme des fous avec
c'est
une
unification
de malade.
De beaucoup de services, mais je pense que Xil va mieux en parler que moi.
C'est oui, enfin c'est leur bar qui est apparu en haut et c'est qui va dans cette stratégie, c'est le plus sain qui va dans cette stratégie, et en effet, ils cherchent à unifier leurs services. Le truc, c'est que pour le moment, bon, moi... Mais
alors, déjà, explique tout ça à des gens qui ne connaissent pas, parce que moi, je sais de quoi tu parles,
Il y avait déjà des aspects sociaux, il y avait ce qu'avait déjà présenté Xil, à savoir dans Gridr, qui permettait de suivre des gens et de suivre leurs news, c'est ce que Xil avait déjà expliqué ça. T'as l'aspect social qui était dans le système de recherche, tu cliques sur un plus un, et tes amis ou tes contacts, ça influence leur recherche, etc. Donc il y avait déjà des composantes sociales distillées un peu partout dans les services. Et là, ils veulent unifier ça, et tu peux ajouter des amis dans des cercles, etc., etc., etc. Avec alors, des services de vidéo.
En gros, c'est comme Facebook, mais il y a un principe qui est très intéressant, c'est celui des cercles. C'est-à-dire que quand tu rajoutes un contact, tu dis s'il fait partie de tes amis, de tes collègues, de ta famille ou autre. Et résultat, tu peux partager quelque chose à seulement ta famille. Par exemple, les infos qui coulent, j'ai eu ma bar mitzvah. Tu peux seulement à tes amis des blagues sur Hitler et seulement à tes collègues je sais pas, des trucs qui intéressent tes collègues. Moi mes collègues ils sont chiants donc je sais pas ce qui les intéresse.
Non, mais oui, mais ça en même temps tout ça existait sur Facebook avant quoi.
Alors apparemment ça a disparu de Facebook à une époque cette histoire.
Ça a jamais toujours présent sur Facebook. C'est juste une question d'interface.
Ouais voilà, l'interface est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple avec
Google Plus a construit son service autour des cercles tandis que Facebook a fait la même chose mais complètement en périphérie de son service.
Et je pense que ça c'est vraiment l'avantage de Google Plus par rapport à Facebook.
L'avantage c'est que les gens vont enfin l'utiliser, et malheureusement sur Facebook les gens l'utilisaient pas alors que c'était
et
vraiment
c'est
la manière
caché de... sur Facebook il faut aller dans les profiles machin settings
il fallait construire des groupes et ajouter les gens à des groupes.
Après ce qui est assez remarquable aussi c'est que sur Google Plus pour le moment enfin t'avais tout un tas de trucs qui naturellement auraient dû rentrer dans Google Plus, en particulier ce qu'ils ont fait avec Buzz, en particulier les commentaires de Google Reader, et ils n'ont pas été intégrés à l'heure actuelle. C'est-à-dire que, mine de rien, à l'heure actuelle, Google a deux services qui font quasiment la même chose, mais présentés de manière différente.
Ce serait un peu chiant de t'obliger à quitter Reader pour passer à Google Plus.
Non, mais ça aurait été très simple de mettre les commentaires Reader, le flux de commentaires Reader dans le flux de Google Plus. Ouais. En gros, de mettre le flux de Buzz d'office dans ton flux Google Plus, ou en tout cas de donner la possibilité de le faire. J'imagine qu'ils vont le faire tôt ou tard, ou le proposer tôt ou tard, mais ça va venir. Un autre truc que les utilisateurs de Google Plus attendent beaucoup et que moi j'attendais en tant qu'utilisateur de Reader avant, c'est de pouvoir générer plusieurs flux différents, des flux thématiques. Genre, je partage avec ce flux-là tout ce qui concerne les jeux vidéo. Je partage sur ce flux-là tout ce qui concerne les néo-nazis.
C'est un très bon thème.
Libre à toi de t'inscrire en fonction de tes centres d'intérêt au flux qui t'intéresse. Mmh. Mais bon, ça n'existe pas pour le moment, c'est juste dans les rêves de beaucoup
d'utilisateurs Google+. Alors que tu peux le faire sur Facebook, ça aussi. Oui, Krilin.
Il y a aussi un truc qui est bien dans Google+, alors peut-être que ça existe aussi chez Facebook, c'est le fait que quand tu partages un article ou des données ou des choses, tu peux les partager de façon privée, ce qui fait que les gens à qui tu partages ne peuvent pas le repartager derrière. Donc si tu veux montrer tes photos de toi dans des postures très amusantes, mais que t'aimerais pas que ton patron y chope...
Il n'y a pas que Twitter.
Non, il n'y a rien. Non. Continue.
Donc tu peux le partager et ça se partage que à ton cercle à toi et pas au cercle
Facebook le fait aussi. C'est au lieu de choisir
En fait c'est de la
Google Plus. Non mais c'est pareil, mais ça le fait mieux.
L'erreur de Facebook c'est l'interface. Facebook a une interface de merde, et rien qu'en faisant un truc super ludique avec des petites animations et des petits cercles, tu pousses les gens à aller dropper des gens dans des cercles et à vraiment architecturer leur liste d'amis. Non, ce qu'ils n'ont jamais pris le temps de faire sur Facebook.
Honnêtement, les cercles ne sont pas si pratiques parce que ça, moi au final, je classe les gens en allant justement pas sur l'interface cercle parce que...
Oui, mais moi ça te montre que le service est centré autour de ça, alors que les gens qui utilisent Facebook...
Je suis d'accord.
On jamais pensé.
Je suis d'accord dans le fond, mais c'était juste pour dire que ça... Enfin, elle est bien cette interface, mais elle n'est pas extraordinaire non plus. Il y a mieux à
faire.
De toute façon, moi j'ai, bon, je me suis inscrit dessus, j'ai pas tout compris. Moi, j'ai reçu une invitation de Xil, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça. J'ai cliqué, puis c'est un peu comme ça que je m'étais inscrit sur Facebook finalement. Je vois pas beaucoup d'intérêt non plus à Google+, mais j'en ai jamais vu à Facebook. La grosse différence que j'ai vue dans les deux, c'est que Google+ est un service et il essaye pas de te vendre des trucs de partout. Bon, pas pour l'instant en tout cas. On n'est jamais à l'abri de YouTube qui met des vidéos avec des pubs. Mais Google+, les seuls contacts qu'il m'a proposés, c'était des gens qui étaient dans mon carnet d'adresses. Il s'est pas mis à me proposer des Brésiliens étranges.
Ou des Brésiliennes.
Ou des. Voilà, non,
des contacts. Ou un peu des Brésiliens, il a bien précisé.
Il essaie pas à tout prix de te faire élargir ton groupe d'amis.
La différence, c'est que Google a déjà son modèle économique Facebook ne l'avait pas encore.
La principale différence, quand même, tu l'as peut-être dit, mais il me semble pas, c'est que Google Plus a le même modèle en fait que Twitter, c'est-à-dire que c'est un service asynchrone, c'est pas un service synchrone, contrairement à Facebook. Non, asynchrone, je veux dire par là que quand tu es ami avec quelqu'un, il n'est pas forcément ton ami.
Ouais.
Tandis que sur Facebook, quand t'es ami avec quelqu'un, t'es obligé de l'avoir.
C'est une bijection.
Ouais.
Ouais, sauf si tu vois, il y a des gens qui utilisent les pages fans pour ça sur Facebook, mais...
C'est un peu comme sur Flickr aussi, t'as un système comme ça, un peu...
Mais c'est vrai que c'est assez différent.
J'ai
pas encore vu l'intérêt non plus.
Et moi, la population que j'ai sur Google+, c'est plus une... Enfin, c'est une population qui vient de Google Reader et de...
Non, mais le monde te suit maintenant.
Et de Twitter, et pas vraiment de Facebook. D'un autre côté, j'ai pas de compte Facebook, donc elle pouvait...
Je pense que ça se rapproche beaucoup plus de Twitter pour l'aspect Reader et l'aspect partage et l'aspect d'information, en fait.
Oui, c'est surtout un système, pour moi, dans l'utilisation que j'en fais, dans l'utilisation qu'en font mes contacts, de partage de liens, un peu comme Twitter.
Ouais, mais
un peu comme devrait l'être Facebook.
Oui, sauf que comme ça va utiliser Picasa, après les gens vont commencer à utiliser ça pour partager leurs photos, leurs machins, etc. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. Moi, pour l'instant, j'en ai aucune utilité. Et déjà que je galère à aller suivre mon fil Twitter et mon fil Facebook. Donc, on va peut-être arriver à un moment où justement les gens doivent faire des choix quoi, dans ce genre de service qu'ils ont. Parce que c'est chronophage d'une manière assez hallucinante.
Moi, je pense que je garderai mon compte copain d'avant, alors.
Fin d'avance, c'est le Facebook des quadras.
Hein. Mais tu sais qu'en plus, attends, ils ont un nombre d'inscrits énorme. Moi, je suis inscrit. Tout le monde s'est inscrit sur Copain d'avant.
Non, pas moi.
Qui est-ce qui est inscrit sur Copain d'avant aussi?
Ma mère.
Moi, je crois que je suis inscrit.
Ma mère, elle a retrouvé des copains de son époque. Et voilà.
Je m'y suis inscrit et j'ai essayé de me désinscrire il y a quelques temps et c'était complètement impossible. C'était énervant au possible. T'avais pas moyen de leur dire d'arrêter de t'envoyer des putains d'emails.
Oui, tu recevais des emails tout le temps, c'est horrible.
Tu as signé avec pour donner ton âme.
Tada. Enfin, bref.
C'est emmerdant parce que tu l'avais déjà promise à Piouf et maintenant il y a aussi copain d'avant.
Non, mais il a plusieurs âmes. Allez. Fini tout ça. On passe à la rubrique.
Il y a
une news. Tu vas peut-être compenser un
Monsieur
peu.
Monsieur Suave a une news.
Compenser le niveau de mes news d'aujourd'hui.
Non, mais c'était juste un complément en fait de ce qu'avait dit Macroute quand il était venu chez vous.
Macross. Hein.
Macross, pardon. Macross, si tu nous Donc, vous avez parlé du port Thunderbolt, je crois.
Tout à fait.
Voilà. Et moi, j'ai lu récemment que en fait, Apple avait passé un accord avec Canon. Pour travailler sur ce port. Alors Apple, je sais pas de leur côté, je connais pas bien tous les logiciels Apple, mais c'est possible que ça soit. Je pense que c'est au niveau de la vidéo parce que Canon fait des caméras pro.
Juste pour le transfert, pour le faire en direct.
Je pense qu'il y aurait les deux. Je serais pas étonné, mais ça renifle plutôt ça parce que finalement pour la photo, je pense pas que ça soit indispensable aujourd'hui. Même si on a des gros fichiers, c'est pas.
Moi, je pense que c'est total. Enfin, moi, c'est vraiment plus l'aspect qu'il avait soulevé sur remplacer tous les câbles par un câble.
Effectivement, je pense que ça semble être la vidéo et pour le coup, il y aurait pas mal de choses à faire. Parce que tu pourrais avoir une sorte de régie qui tient dans un portable.
Ouais, c'est plus pour les pros, quoi. Vrai.
Voilà, c'est tout.
Merci, Yaya. On passe donc à la rubrique
de Micha.
Micha.
Petit poney.
La rubrique de Micha.
Exciting and new. Come aboard. We're expecting you.
Salut Micha.
Salut, je mets mes lunettes.
Ah, bravo,
pour passer incognito.
Tu donnes des indices, les gens vont
te connaître. Bibliothécaire.
Mais lubrique.
Je suis plus sérieux.
Micha, est-ce que tu connais l'expression femme à lunettes?
Ah bah bravo Yann, c'est charmant. Ouais, c'est charmant.
Lunettes.
C'est charmant.
Lunettes,
Femme à lunettes, femme à quéquette. À toi.
Alors.
De quoi vas-tu nous parler?
Je voulais vous parler encore une fois des applis smartphone pour préparer vos vacances. Est-ce qu'il y a des gens qui partent en vacances ici? Parce que moi je pars pas.
Bah non, il y en a qui bossent.
Ouais, hein. Mais j'essaie de partir avec un train ou un avion, une voiture à la limite, mais pas sur un téléphone quoi.
T'es gentil d'avoir ri, sincèrement.
Justement, j'ai plein d'applis pour toi. Toi qui veux partir en avion ou en train.
Soirée humour ce soir.
Alors, premier appli très pratique pour les Français qui partent en vacances en France, enfin ou même en train, quoi. C'est
baguetteetberet.com. Non, je. Oh là là, il y a vraiment du level.
Non mais sans déconner quoi, faut que ce soit équitable quoi.
J'ai du mal à suivre.
Oh la vache.
C'est
celui sur lequel on est censé rebondir quoi.
Mince, je connais plus le jingle de SNCF.
Pa 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 la.
Ah là, l'appli SNCF.
Votre train est annulé.
Voilà. Donc
c'est un mouvement social.
Pa pa pa.
Justement, cette appli te donne plein d'informations. Donc il y a deux applis, il y a SNCF Direct. Donc SNCF Direct, c'est une appli gratuite sur les iPhone et Android. Enfin, il n'y a que ça, de toute façon.
Confirme.
Donc, c'est une appli qui permet... tu lances l'appli, tu choisis la gare où tu veux regarder les tableaux d'affichage pour avoir les informations sur les départs, l'arrivée des trains. Donc là, tu choisis la gare, tu vois tout de suite les tableaux d'affichage, tu choisis ton train, tu as des informations sur le train, sur le quai, sur le temps d'arrivée, le temps du retard. Voilà, je ne sais pas quoi d'autre. Ben voilà. Donc, tu peux aussi être inscrit aux alertes pour un certain train. Donc, si par exemple tu pars à Quimper et tu vas avoir des informations sur le TGV numéro 9223, tu peux t'inscrire aux alertes pour la journée pour voir s'il y a des changements sur ce train-là.
Je crois que les numéros impairs, c'est ceux qui remontent à Paris en fait.
Voilà.
Moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a une appli pour que, par exemple, s'il y a un contrôleur qui vient de passer, tu puisses signaler à tous les gens du wagon d'après
que
tu as un contrôleur qui va passer.
C'est un peu comme Pervenche, mais pour les contrôleurs, on m'en a déjà parlé.
Il y avait des applis pour
le métro.
Dans le métro, mais la géolocalisation dans le métro est difficile, donc tu mettais les noms des trucs, ils se sont fait attaquer par la SNCF, etc.
Mais bon, ça n'a rien à voir avec les vacances là, tu payes.
C'est le prix des vacances
toute l'année.
Ah ouais, bah bravo.
La SNCF a été plutôt malin là-dessus. Ils suivent une tendance qui est très bonne, à savoir, au lieu de faire une app SNCF dans laquelle tu as tout, tu fais une app pour une utilisation. Donc, ils ont bien eu l'intelligence de séparer l'app, j'achète mes billets, et l'app, je consulte les infos.
Pour acheter les billets, c'est justement l'application Voyage SNCF. C'est comme le site, mais beaucoup plus.
C'est aussi pourri.
Beaucoup plus simple.
Non, est-ce que le web déjà
la version appli est toujours plus simple. Ouais.
L'app est tellement bien faite que quand tu as le choix et tu as ton PC devant toi, tu préfères le faire sur le téléphone que de le faire sur le.
Est-ce que tu vas parler de l'app pour Air France?
Oui.
D'accord, donc j'attends mes critiques arriveront après.
D'ailleurs, en parlant d'avion et la SNCF peut te changer les horaires des trains.
Ouais, j'ai vu ça
au journal
aussi.
De confirmer à l'avance,
aussi.
Comme pour les avions, c'est complètement fou.
Ouais.
Bah, en gros, comme ils se prenaient toujours des baffes dans la gueule parce qu'ils étaient tout le temps en retard, ils se sont dit, on va mettre dans les conditions générales que c'est plus ou moins tant de minutes.
Est-ce que tu acceptes les retards
Dans les similitudes, moi j'ai pris l'Eurostar pour Londres. La manière dont tu es traité, c'est insupportable quoi. Ils font partie de l'espace Schengen, ces connards, non?
Quoi? Non, l'immigration, tu rêves?
C'est bien le problème.
Ah, Londres, c'est affreux. Tu dois passer par l'immigration.
Tu passes, il y a cinq files d'attente à la suite. et puis t'es fouillé, t'es...
Ah, façon, c'est parce que t'as une tête de punk terroriste.
Non non, moi ça allait encore, je suis relativement
fallait
blanc,
pas y aller avec tes
justement,
bottes
justement c'est beaucoup plus confortable que la gare normale. T'as des vrais sièges pour t'asseoir après les contrôles.
Ouais. Ouais, y a rien, tu...
Alors, pour avoir... bon, j'ai déjà pris pas mal le TGV en France. J'ai pris quelquefois l'Eurostar, mais j'ai surtout pris pendant 2 ans de façon très, très régulière le Thalys. Et...
Oui, il paraît que c'est très violent, les contrôles dedans.
Bon, je payais à chaque fois, donc...
Oui, non, et les contrôles de la douane, qu'ils sont très mauvais.
Ah non, alors j'ai jamais été mais contrôlé et je n'ai jamais vu de contrôle de douane. Désolé. Par contre, clairement, le service.
Tu n'as jamais eu de problème à faire passer ton héroïne, du coup.
Que ce soit le prix ou la qualité de service, ils sont loin devant Eurostar et SNCF en France. Enfin, moi, j'étais plus que content de leur service et voilà. Enfin, vraiment très bien.
Big up pour le Thalys.
Voilà.
Vous savez, vous connaissez IDTGV ?
Ouais.
Ouais.
C'est une filiale privée de la SNCF, ça c'est génial. Hein. Les montages financiers qu'il doit y avoir derrière, c'est quand même génial.
Ouais.
Une filiale privée de la SNCF. Et donc, ils mettent un de leurs wagons au cul d'un TGV normal, mais il n'y a qu'eux qui peuvent vendre les billets, que en ligne, et c'est super pas cher. Par contre, en général, il y en a un par jour.
Que généralement, c'est pas qu'un wagon, hein, ils ont des trains entiers parfois. Hein.
Et puis, t'as des ambiances.
Ce que j'avais vu, c'était qu'un wagon, mais peut-être.
C'est comme à l'époque où t'avais les trucs fumeurs et non fumeurs.
Ouais, là, t'as
zen et je sais pas quoi, et en fait, tout le monde va en zen, même les familles avec 15 gamins, même les jeunes, même tout le monde va en zen, quoi. Donc en gros c'est complètement, enfin c'est moins cher mais ça change rien en fait, enfin, ça change pas grand chose.
Enfin tu parles des ambiances ou parce que par rapport au même TGV c'est pas le même prix. Hein.
Oui mais justement l'avantage c'est que c'est moins cher et que ça change pas grand chose.
Oui oui.
Ouais, ce que Pew veut dire c'est que oui il y a pas de perte de qualité en allant dans un truc qui est censé être plus brillant que l'autre.
Bah, surtout que t'as aucun service dans un train donc qu'il y en ait ou qu'il y en ait pas, basta quoi. Et bref, donc Micha continue.
Voilà, donc on a parlé des trains. Donc je voulais parler aussi de l'appli Air France.
Ah bah tiens, ça tombe bien.
Bah, sauf que moi j'ai pas passé beaucoup de temps là-dessus. Donc si t'as des infos, je l'ai téléchargé, j'ai essayé, mais j'ai pas réservé de billet, j'ai rien fait.
Aujourd'hui, il y avait pas mal de gens à mon boulot qui s'en plaignaient de cette appli, du fait que. Tu te retrouvais tout le temps à cliquer avec tes gros doigts sur la date d'à côté et donc à te retrouver pas avec les billets que tu voulais.
Bah, c'est ça les mauvais concepteurs d'appli.
Ouais.
Hein.
Apparemment, ouais.
Donc,
je pense qu'il faudrait trouver une petite boîte française spécialisée dans les pervenches.
Non, mais tu regardes l'appli SNCF. La preuve, c'est que l'appli SNCF, elle est mieux utilisable que le site web. Quoi. C'est juste hallucinant.
Donc maintenant, une autre appli, après avoir acheté vos billets sur Air France ou SNCF, une autre appli qui est très pratique pour organiser les voyages, c'est une appli qui s'appelle WePolo.
Ah.
Donc ça existe aussi pour les Android et iPhone. Donc WePolo, c'est une appli... où ça te permet en fait d'organiser ton voyage. Ça veut dire que quand tu lances l'appli, tu as des informations sur le voyage que tu vas faire, enfin tous tes voyages que tu vas faire ou tu as déjà fait, et des informations par exemple sur le numéro de train, les numéros de quai, pareil, un peu comme SNCF aussi, les retards, etc. Et comment est-ce que ça marche? WePolo, en fait, ce que tu fais, c'est quand tu achètes ton billet sur Internet, t'achètes et normalement tu reçois un mail de confirmation sur ta boîte Gmail.
T'es en train de foutre de la flotte partout.
Ouais, et surtout, t'es en train de pourrir l'enregistrement.
C'est pas grave, j'ai fini. Donc en fait, tu reçois le mail, tu forwardes le mail reçu des agences de voyage ou les compagnies aériennes à l'adresse WePolo. Tu crées un compte WePolo,
cool,
ensuite tu forwardes les mails.
Tu peux choper ton billet et le revendre.
Et après, l'appli superbe scanne l'information dans le mail et garde que les informations essentielles concernant ton voyage, par exemple la gare, le nom de la gare, le nom de ton siège, machin, et fait une synthèse de ça et les remet en forme.
En gros, ça te permet de prendre des notes.
Voilà, de prendre des notes et rapidement, quoi. Tu sors ton téléphone.
Non, en fait, ce qui est génial, c'est que.
T'as pas à chercher dans ton mail.
Pour tous les trucs que tu commandes, voyage, tu reçois des mails. Et là, t'as juste à faire forward mail@wepolo.com. vu qu'il voit d'où vient le mail, il sait à quel compte ça correspond. ils parsent les hôtels, les billets d'avion, les billets de train, les réservations de voitures, tout.
Forward à apple.com, ils sont contents aussi. Eux aussi, ils prennent toutes les infos.
Non, mais tu sais, un billet électronique, c'est nominatif, donc personne ne peut rien faire. Bref.
Ok, et puis.
Et ça, c'est super pratique. Ouais.
Une dernière.
Et c'est une boîte française, hein. Une bonne start-up française.
C'est l'atelier du mobile.
Ok, une dernière appli pour les gens qui partent à l'étranger et qui partent pas en Europe, enfin des pays qui n'utilisent pas l'euro. C'est une appli qui s'appelle XE Currency. Donc, c'est une appli qui
mais
permet...
Mais attends,
c'est la même chose que le site web,
ouais,
non?
Ouais, c'est ça, le site,
voilà,
il est vachement bien.
Ouais. Donc, pareil, l'appli est aussi super bien fait. Alors, donc, si vous connaissez le site, c'est le site qui permet de faire des échanges de... conversion de monnaie.
Est-ce qu'elle est utilisable offline?
Oui.
Ça, c'est
mais bon, t'as pas le rate, comment dire, le tarif.
Le cours est pas à jour.
Bah, bien sûr, ouais, mais bon, c'est pas les cours, si le matin tu pars de ton hôtel,
non, tu l'as chargé.
À part l'euro, grâce à la Grèce, normalement, ça bouge pas très vite.
En gros, avant de partir, tu charges les pays qui t'intéressent.
$2 zimbabwéen, je crois qu'il vaut pas grand chose.
Tu charges les pays qui t'intéressent avant de partir, et quand t'as l'occasion de le faire, tu peux mettre à jour tous tes.
Ouais, toutes les rates, je sais plus comment dire. Enfin, bref.
Surtout si tu vas en Afrique, les frontières, elles bougent très vite.
Donc, c'est très facile à utiliser. Tu cliques sur la monnaie que tu veux convertir, par exemple l'euro, donc tu mets la somme en euros et après toutes les autres monnaies changent en fonction de la valeur que tu avais mis en euros. Donc voilà, pour les gens qui partent à l'étranger, qui partent dans plusieurs pays aussi, c'est très très pratique. C'est moi, je l'ai déjà utilisé et c'est génial. Voilà.
Moi qui pars dans le Cantal cet été, c'est rien.
Moi, j'ai en francs là-bas, non?
Non, payé en vache.
J'avais repéré l'appli Conseil aux voyageurs qui était fait par le ministère des Affaires étrangères. Donc là, c'est toutes les infos qu'on trouve sur la sécurité, les vaccins, la santé, ce genre de conneries quand tu veux choisir ton pays. Et sinon, il y en a.
Ils sont un peu alarmistes hein, quand même.
Il y a toujours un. Ouais, toujours.
Complètement.
Et sinon, il y a toujours la problématique de comment est-ce que je m'oriente quand je suis à l'étranger.
Avec une boussole.
Sur Android, tu peux télécharger des trucs comme MapDroid qui te permettent de précharger à l'avance des cartes. Et qui te permettent d'utiliser le GPS, hein, parce que le GPS, où que tu sois dans le monde, c'est gratuit. C'est pas comme le GSM ou la 3G. Donc en gros, ça te permet d'avoir à la fois ta position et à la fois de bénéficier de la carte. Et donc en gros, tu as ta carte.
Comme tu peux utiliser offline sans avoir le réseau internet.
Ouais,
tu as tes cartes.
En fait,
c'est long.
En fait, le problème, c'est que c'est assez long de te géolocaliser parce que généralement, le GPS met un peu de temps. Et là, tu ne peux pas te baser sur les tours pour te trianguler. Mais comme tu télécharges à l'avance les cartes, tu n'as plus aucun accès réseau à faire en fait. Donc ça, c'est quand même très pratique.
Il y en a pour la France aussi ?
Ah, il y en a pour tout le monde.
Bon, bah ok, super. Merci.
Donc ça, tu peux le précharger en Wi-Fi si jamais t'es un crevard et que t'as pas de...
Bah c'est
de
ça, ouais. Moi, j'ai un smartphone, mais avec le forfait de ma grand-mère.
Et voilà, tu télécharges MapDroid sur... Bah, alors, il faut savoir d'ailleurs qu'il y a une annonce qui vient de tomber il y a quelques heures, j'ai vu sur le blog de Google, où justement la version de base...
Il y a une semaine, donc.
De Google Maps d'Android intègre un lab qui te permet de choisir de précharger déjà dans Google Maps certaines parties. Donc en fait, tu n'auras plus besoin de télécharger une appli tierce, tu diras directement à ton Google Maps je veux sauvegarder tel truc et c'est bon quoi. Et sur iPhone, j'ai repéré une appli, mais elle coûte 99 centimes, ça s'appelle Off Maps 2. Voilà, et ça c'est très pratique parce que, quand même, l'orientation, je pense, à l'étranger, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Et dernier truc que moi je conseillerais, c'est Penetrate.
Oh là,
ça aussi,
c'est
un gros problème à l'étranger.
Pour la Thaïlande. Non, c'est une appli pour craquer les Wi-Fi qui connaît aussi tous les mots de passe de base, admin. Enfin, en gros, en France, ça marche pas parce que tout le monde.
Je pianote.
En France, ça marche pas parce que tout le monde a des routeurs et
je
des machins.
C'est qu'il y a des préservatifs gradués.
Qui sont free et compagnie. Mais à l'étranger, beaucoup de gens ont des routeurs à la con avec des mots de passe encore par défaut qui sont installés d'usine. Et ça peut être très utile. Pour avoir un Wi-Fi quand on a besoin. Il ne faut pas utiliser.
Ça marche pas avec les box, c'est ça ?
Voilà, en France, ça n'a aucun intérêt, mais à l'étranger, ça peut avoir un intérêt.
Bah, puisqu'on parle de voyage et de Penetrate, moi j'ai appris un truc vachement bien. On sait tous que ce n'est pas la taille du sexe qui compte, mais le diamètre. Et justement, les Allemands.
Le Krilin a un très gros diamètre.
Et justement, les Allemands, putain, où est-ce que ça va, quoi ?
Justement, les Allemands, c'est eux qui ont en moyenne le plus petit diamètre en Europe. Et c'est très problématique parce que autant un préservatif, tu peux lui donner la longueur que tu veux, autant malheureusement ils ont besoin de préservatifs spéciaux pour adapter à leur diamètre. Voilà.
Ça, tu nous fais voyager quoi.
Ah bah. Ouais.
Tu vends du rêve.
Mais bordel, c'est quoi cet épisode? Bon, non, pour ceux qui débarquent pour la première fois, normalement c'est pas comme ça. Hein. Merci.
Est-ce qu'on peut en déduire que c'est pour ça la
c'est l'absence d'alcool ce soir qui fait des effets.
Qui fait des ravages. Je pense que c'est la fatigue.
Allez, on passe enfin à la seule rubrique préparée de cette émission, celle dont on ne connaît pas encore le sujet,
la rubrique de Krilin.
Enfin, ma rubrique c'était sur les sexes des Allemands. Hein. Elle est finie.
Lorsque je vois ce fameux site qui me rappelle une certaine presse des années 30...
J'ai un certain humour, pas forcément le même que les autres.
Nous proposons que le savoir-faire de nos forces de sécurité...
Plus
permette de régler...
Je sais où tu te caches.
...des situations sécuritaires de ce type.
Viens ici que je te bute, enculé.
Parce qu'on s'aperçoit que l'ère de la calomnie... C'est aujourd'hui arrêté, tout simplement parce que c'est la vérité.
Tais-toi ! Je te flagelle la gueule à coups de cramage !
Ah. Allez, la parole est à toi.
Alors,
relève le niveau. Relève le niveau.
Alors, explique-nous, mon petit piouf, où tu vas passer toute ta journée de demain.
Où je ne vais pas passer ma journée de demain.
Où tu ne vas pas passer ta journée de demain, excuse-moi.
Je ne vais pas passer ma journée de demain. N'étant pas entouré de toi et de l'équipe de l'apéro du capitaine, en n'étant pas dans le sous-sol parisien.
Ça fait beaucoup de négations. Donc oui, pour préparer un peu notre visite, notre non-visite de demain des catacombes de Paris, eh bien, puisque j'avais déjà fait une petite rubrique pour présenter l'exploration urbaine, là je vais... plus précisément vous expliquer un peu les catacombes de Paris, qu'est-ce qui est intéressant ou pas, et etc.
Alors, on précise aux agents de la maréchaussée qui nous écoutent que ça ne sert à rien de débarquer demain dans les catacombes vu qu'au moment où cette émission sera diffusée
ce sera trop tard. Pardon. Ah non, parce qu'on n'y sera pas.
Bref. Vas-y, relève le niveau, Krilin.
Ouais, merci, parce que là... Donc déjà, ce qu'on appelle les catacombes de Paris, c'est un faux nom, puisque les catacombes de Paris, ce qu'on appelle les catacombes de Paris, c'est un ensemble de carrières, donc où on prélevait de la pierre. Et les vraies catacombes de Paris, ça pourrait être ce qu'on appelle les catacombes officielles, qui sont à Denfert-Rochereau. Mais là encore, c'est un nom abusif, puisqu'en réalité, c'est l'ossuaire officiel. Les catacombes, il y en a surtout à Rome. Et dans quelques villes, notamment Sicile, mais bon, il n'y a pas réellement de catacombes à Paris. Mais par abus de langage, c'est devenu la norme. Donc, pourquoi est-ce que le sous-sol de Paris est un gruyère ? Déjà, il faut savoir que, à peu près à l'époque de la Gaule ou des Romains, ça creusait pas mal aux alentours de Paris pour récupérer de la pierre.
C'est donc, du calcaire, non, c'est pareil.
Beaucoup de calcaire, voilà, dans le sud de Paris.
Gypse.
Et du gypse au nord-est.
Ça s'est cultivé.
Allez, aux alentours de, du 18e, 19e, 20e. Voilà. Pour info, les carrières de calcaire, ça peut être intéressant à visiter. Les carrières de gypse, c'est très apocalyptique, ça résiste très mal au temps et en général, c'est vraiment le bordel et c'est assez dangereux. Donc, il y a eu pas mal de trous qui ont été faits sous ce qui allait devenir Paris. Alors il y a une époque où on notait pas où ils étaient ces trous et puis on les oubliait et puis plus tard on n'a pas oublié où c'était, mais à partir du moment où ça a été des concessions, les gens respectaient pas nécessairement, les carrières respectaient pas nécessairement les concessions, ensuite ils fermaient des galeries et compagnie, donc même si officiellement on savait où elles étaient, en réalité c'était un peu un gros bordel.
C'est la réglementation poussait à cacher pour pas payer, pour piquer chez le voisin, quoi.
Ouais, voilà. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que il y avait des concessions qui étaient qui représentaient un peu le cadastre. Enfin, à l'époque, le cadastre n'existait pas. Mais bon, donc c'était par rapport à ce qui existait sur au niveau du sol, on considérait que on avait le même droit de propriété en dessous. Alors que les carriers, eux, ce qu'ils voulaient, c'était suivre les filons de calcaire. Donc, si on les contrôlait pas, eux, ils avaient une légère tendance à suivre les filons plutôt que suivre ce qu'on leur avait demandé.
C'est comme dans Lucky Luke.
Oui, c'est comme.
On a la culture qu'on peut, hein. Tout ça pour rejouer avec sa boîte à jingle. La misère.
Alors, à l'époque, il y a ce qu'on appelle la technique des piliers tournés. C'est-à-dire que quand on trouve une veine de calcaire, on va enlever des blocs de calcaire et on va laisser au milieu un espèce d'énorme poteau. Et donc on va creuser autour de ce poteau là qu'on va laisser, et ce poteau va tenir le ciel de la carrière, donc le plafond. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a épuisé le gisement, ce gros poteau, il est quand même vachement intéressant à regarder, donc parfois ils avaient une petite tendance à rogner dedans. Et puis de toute façon, comme
t'aimes bien rogner dans le gros poteau, vachement intéressant.
Ouais.
J'ai l'impression que moi on boit puis on a des blagues nulles.
La fatigue, c'est mieux que l'alcool. Et puis également, comme de toute façon c'était des concessions louées, les mecs en avaient un petit peu rien à foutre. Et puis s'il fallait vraiment rogner beaucoup dans le gros poteau comme au YMCA, et ben on rognait beaucoup et puis après on se barrait.
Mais à l'époque, il y avait personne qui vivait au-dessus.
Ah si, en fait, au-dessus des carrières romaines, ça s'est très vite développé. Et puis même, il y avait, je sais pas si c'était la banlieue parisienne à cette époque-là, mais ce qui est aujourd'hui le 14e, il y avait déjà des gens. Même si c'était pas des palais et compagnie, il y avait des gens. Donc il y a eu de plus en plus, à cause donc de ces oublis, de ces non-respects des normes, de plus en plus d'effondrements au 17e et 18e siècle. Donc parfois c'était une charrette qui disparaissait, parfois c'était une maison, donc voilà, c'était un petit peu problématique. Donc Louis XVI, qui n'a pas fait que des conneries, a créé pour ça l'IGC, donc l'Inspection Générale des Carrières. C'était un groupe d'ingénieurs en fait qui était là pour déjà refaire les plans des carrières, retrouver tout ce qui avait été fait, faire des liens entre les uns et les autres et compagnie. Parce que tout étant privatisé, tout avait été perdu, et les consolider. Donc les consolidations, ce sont par exemple des arches maçonnées, des voûtes et compagnie. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans les carrières et qui est très sympa. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aller visiter les carrières pour l'aspect historique. C'est à la fois pour toute la partie extraction du calcaire où on en voit les traces, notamment les piliers tournés et compagnie, et toutes les maçonneries qui ont été faites après, parce que c'est assez superbe. Ce qui s'est passé, donc il y avait en dessous de Paris des grandes salles, puisque on vidait les filons. Et donc ce qu'il fallait souvent, c'était remplir ces salles de gravats et compagnie pour que ça ne s'écroule plus. Ce qui était important surtout, c'était de faire des fortifications aux endroits où ça poussait le plus. Et là où ça poussait le plus, c'était les fondaisons, les fondations des maisons. Donc ils se sont mis, les gens de l'IGC, à faire souvent des murs en dessous des fondations. Ce qui fait qu'au final, on s'est retrouvé avec un réseau souterrain qui reprenait la même architecture que les rues. C'est pour ça que maintenant, quand on y va, même si ça disparaît un peu, il y a des plaques de rues un peu partout. Notamment à une époque, il y avait des plaques émaillées. Donc, avec les noms des rues, c'est très pratique pour se repérer quand on connaît bien Paris. Et c'est assez rigolo aussi, puisque il y a parfois les anciens noms des rues, parfois des indications comme côté du levant ou côté du couchant, etc. Donc c'est encore un aspect historique qui est assez rigolo. Donc entre ces murs qui reprenaient les rues, on s'est mis à remplir de terre souvent, ou parfois non, et ça faisait des salles. Il y avait un autre problème. Donc à cette époque-là, il n'y a pas d'ossements sous Paris. Mais il y avait un autre problème qui arrivait à la fin du XVIIIe siècle. Donc déjà l'IGC c'est au XVIIIe siècle, donc le problème que je vais soulever c'est quasiment un siècle plus tard. C'est que les cimetières parisiens ils sont un petit peu pleins. Ils sont pleins à tel point que le cimetière des Innocents au centre de Paris, il y a,
Maintenant c'est la place des Innocents là où il y a la fontaine.
Peut-être, ouais.
C'était une grosse fosse commune, là où il y a la fontaine du Châtelet, ouais. En fait.
Donc il y avait, si je me souviens bien, 3 mètres de différence entre le niveau du sol de la rue et le niveau du sol du cimetière. Donc à cause des entassements de cadavres. Ça faisait un tel poids, en fait, qu'il y a un restaurateur qui, un jour, est allé chercher une petite bouteille dans sa cave et pouf ! Ah bah merde, des cadavres ! Ça... Voilà. Donc en fait, la pression des cadavres était telle que ça avait éventré sa cave et il y avait plein de cadavres et de jus de cadavres un peu partout dans sa cave.
Jus de cadavres.
Oh mamie, t'es revenue. Donc
c'est comme ça qu'on a créé la grande spécialité parisienne, le sandwich grec.
Oh la
vache.
Sincèrement, quand tu t'auto-jinglises, c'est assez mauvais. Quoi.
C'est navrant, quoi.
Ça devrait être interdit de s'auto-jingliser.
Oh la vache. Vas-y, continue.
J'avais lu aussi quelque part, mais j'ai pas réussi à le retrouver, donc je peux pas je peux pas être sûr, mais donc tous ces cadavres ont été enlevés, et apparemment le trou des Halles ce serait lié à ça. Ce serait lié au fait qu'ils ont enlevé plein de cadavres.
Moi, ça me semblait beaucoup plus dans la place qui n'était pas à cet endroit-là. Quoi.
Mmh. Bah, si tu regardes les cartes de l'époque, c'était assez grand, mais je ne mettrai pas ma main à couper sur cette dernière anecdote. D'accord. Donc, ce qui s'est passé, oui, le pouvoir a décidé de vider les cadavres parisiens, les cimetières parisiens, et de tous ces cadavres. Et donc, ils ont commencé à les entasser gaiement dans ces salles vides des souterrains de Paris, donc les carrières. La deuxième génération des ingénieurs de l'IGC, c'était notamment dirigé par un mec qui devait s'appeler De Thury, si j'arrive bien à relire mes notes, mais j'en suis pas sûr. Et alors lui c'était un petit rigolo, et quand il a vu tous ces os, il s'est dit bah tiens, plutôt que de les laisser comme ça en vrac, comme on peut voir aujourd'hui dans d'autres ossuaires, notamment à Montrouge ou à Crémelin-Bicêtre, il s'est dit tiens, je vais en faire des trucs marrants. Et donc il s'est mis à faire des murs, des murs de tibia, des murs de crâne.
Ils auraient pu faire des colonnes avec ça pour vous.
Oui, il y a un peu tout. Et c'est ça qu'on peut voir maintenant dans ce qui s'appelle l'ossuaire officiel, que je n'ai toujours pas visité parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde pour aller le voir.
Ah ouais ? Moi, j'ai jamais eu de soucis.
Moi, j'y suis allé quand j'étais petit, il n'y avait pas de soucis.
Ah, moi, à chaque fois que j'y suis allé, il y avait une queue de malade. Quoi.
Mais fine ou large ?
c'est une queue française.
J'étais en train de regarder trop là en lui disant non, la tête, fais pas de blague, et paf, ça vient de m'inviter. Quoi.
C'est une queue française, donc elle est quand même assez imposante. Quoi.
C'est ça.
Ouais. Surtout, elle a beaucoup de gueule. Alors,
Il est blasé.
Elle a une baguette et une moustache.
Ouais. Voilà. Un petit
béret. Oh là, tu peux parler. Voilà.
Un petit béret sur le dessus.
Voilà, lui, ils ont pas enlevé le petit béret. Alors, on va continuer. Donc, à cet ossuaire, ils rajoutent des plaques gravées avec des messages solennels comme « Attention, tu rentres dans l'Empire des Morts » ou ce genre de choses.
Ouais, il y avait genre d'écriture un peu à la con.
C'est très grandiloquent. Et puis, il fait d'autres choses. Notamment, il y a une salle où il a fait une rotonde de tibia. Donc comme un clavier, et il y a eu au milieu du 19e siècle un concert je sais plus si c'est une marche funèbre, je me demande si c'est pas Chopin, mais j'en suis pas sûr. Donc on savait bien rigoler au 19e siècle.
Mais genre il faisait un concert en tapant en faisant un xylo-truc.
J'ai pas réussi à retrouver la référence, je suis pas sûr quand même qu'ils aient osé jouer du xylophone
c'est
comme
à la fin. Surtout que c'est difficile à accorder.
C'est comme à la fin de Star Wars là, sur les crânes. De...
Ah, voilà.
Mais le but était artistique ou le but était de ranger
À la base, c'est de ranger. Lui, quand De Thury s'y met, difficile. Je pense que c'est le premier vrai cataphile. Il kiffe ça. Il doit être un peu gothique sur les bords. Et non, lui, il fait vraiment ça parce que c'est son kiff. Un autre truc, qu'il va faire dans les souterrains, c'est ce qui s'appelle les cabinets de curiosité. Et aujourd'hui, on peut encore en voir un très facilement dans le réseau du 14e. Les cabinets de curiosité, en fait, ce sont des escaliers. Sur lesquels, sur chaque marche, tu vas poser un petit morceau de pierre géologique du coin, en fait, pour expliquer comment ça marche et compagnie. Et ça, c'était quelque chose qui se visitait. Donc, apparemment, à cette époque-là, descendre dans les catas, c'était monnaie courante. Alors après, c'était peut-être réservé à une certaine élite, mais c'était très facile. Ça se faisait pas mal. Sauf qu'à l'époque, évidemment, on était éclairé à la bougie. Et on a quelques témoignages de l'époque où soit des carriers, soit des gens dans des brasseries ou autres se retrouvent dans les catacombes et pouf, ils ont oublié de prendre des allumettes de rechange et un coup de vent souffle leur bougie et oh là là, ils passent 3 jours dedans.
Et ils se bouffent les uns les autres.
Non, parce que sans lumière, c'est difficile de trouver le bon morceau.
Je vais t'attraper.
Dominique.
Dominique au Sofitel. Alors, toutes ces grandes salles vides, elles ont été utilisées assez régulièrement. Déjà au XVIIe siècle, les moines investissent ce qu'il y a sous leur couvent pour faire des salles. Et au XIXe siècle... c'est de plus en plus utilisé par tout ce qui est industrie pour faire notamment des brasseries, des caves, etc. Alors pourquoi des brasseries ? Apparemment, le taux d'humidité et la température constante aux alentours de 13 degrés est très très bien pour l'orge et pour fabriquer de la bière. Donc il y en a beaucoup des brasseries et aujourd'hui les grandes salles qui sont très connues dans le réseau du 14e, la plage ou le cellier, surtout la plage, ce sont d'anciennes brasseries, donc voilà, qui aujourd'hui sont de grandes salles très convoitées par les cataphiles. On peut encore retrouver en haut de ces salles des vieilles installations pour des câbles électriques et ce genre de choses. Et un peu plus tard, alors oui aussi, je crois que c'est sous le... Je sais plus si c'est le 13e ou le 15e, il y a une partie où il y a... il y avait une usine à gaz, en fait. Et il y a des cataphiles un peu tarés qui ont fait de la plongée sous-marine à cet endroit-là, puisqu'il y a beaucoup de puits inondés, etc. Et ils sont ressortis à ces endroits-là. Apparemment, on peut trouver les vidéos sur internet, j'essaierai de les retrouver. C'est très glauque, il y a plein de... L'eau est infestée de gaz. Et quand ils ressortent, les poches dans lesquelles ils ressortent sont des poches de gaz. Donc il y a des poches de gaz très concentrées sous Paris.
Pouf.
Alors ouais, voilà, normalement il n'y a pas de raison que ça pète, mais bon, c'est quand même un peu flippant. 19e, on arrive au 20e siècle et là on a bien rigolé quand même au 20e siècle, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors il y aurait eu apparemment des chasses de résistants et compagnie dans les catacombes, mais j'ai pas retrouvé de référence sûre de ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a 3 abris qui sont très connus, des abris de défense en fait dans les catacombes. Donc il y a quelques abris de défense passive, donc on a rouvert, on a bétonné et comme ça la population peut descendre en cas de bombardement. Mais il y a eu un abri particulièrement de défense qui a été fait pour l'armée, pour les chefs de l'armée, et qui avait été fait un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale, enfin un peu avant la... Ouh là, je suis fatigué.
Seconde Guerre mondiale.
Qui avait été fait un peu avant la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est plutôt chouette parce que elle n'existait pas, cet abri n'existait pas sur les planches. De l'IGC. Ce qui fait que les Allemands ne savaient pas qu'il y avait quelque chose à cet endroit-là. Et donc d'abord la résistance s'en est pas mal servie et ensuite vers la toute fin c'était le quartier général de la France libre qui ensuite en est ressorti quand les Allemands ont été boutés hors de France.
Mais alors, ces trois abris, ils étaient reliés au réseau de catacombes, c'est bien ça ?
Oui, ils sont complètement à l'intérieur. Aujourd'hui, à part l'abri FFI, donc celui qui s'appelle abri FFI, celui dont je viens de parler, qui n'est quasiment jamais accessible, les deux autres sont accessibles.
D'accord.
Notamment, il y a l'abri allemand sous le lycée Montaigne, donc à côté du Sénat, je crois.
En face du Sénat, de l'autre côté du jardin du Luxembourg.
Voilà. Donc ça, c'est les Allemands qui l'avaient, celui-là qui l'avait installé. A priori, c'était juste un abri de défense passive, mais encore aujourd'hui, on peut retrouver des jolies des inscriptions, Verboten, ce genre de choses, des portes blindées, des grilles, etc. C'est pas ce qu'il y a de plus marrant à visiter, mais ça fait partie du folklore des catacombes, quelque chose à voir. Et le troisième, c'est un abri qui a été rouvert il n'y a pas très longtemps, c'est l'abri des Feuillantines. Alors, Pierre Laval, je ne sais pas si vous connaissez, quel grand homme.
Oui. Donc,
c'est celui à côté de qui le maréchal paraît être un petit joueur.
Nous voilà.
Et donc Pierre Laval avait demandé à ce qu'on lui construise un abri de défense, et donc on lui a construit à côté de la rue des Feuillantines. C'est un abri qui est assez sympa à visiter, il en reste pas grand chose, mais on voit bien que c'est très confortable. Il y a des mosaïques par terre, il y a pas mal d'installations, donc il y avait l'électricité, le téléphone, le chauffage. Et ça se voit encore aujourd'hui que c'était un abri très confortable. La femme de Laval est allée le visiter une fois et sinon il a jamais servi. Enfin, il a servi un peu de prison, mais sinon il a jamais servi.
Parce qu'au final, ça reste quand même assez humide, je pense. Enfin, la femme, ça a pas du tout.
Ça doit être indécorable.
Il y a des faux plafonds.
Ça manque de lumière.
Oui,
c'est quand même génial. Il y a des faux plafonds dans les catacombes pour cet abri. Enfin, c'est. Donc voilà, ça c'est. Je pense que j'ai un peu expliqué tous les hauts lieux de la cataphilie. Mais maintenant, il faut parler des catacombes modernes, c'est-à-dire ce qui se passe depuis les années 60. Donc, à partir des années 60, il y a pas mal de... souvent des étudiants qui y vont, des gens de médecine, des gens des mines et compagnie, et qui font pas mal de fêtes. L'IGC, à ce moment-là, se met à devenir aussi une force de police répressive pour arrêter les méchants cataphiles.
C'est là qu'on passe d'ingénieur à flic, non ?
Pourquoi ?
Non, bah les mecs de l'IGC, ça devient pas des flics ?
Si, c'est fin.
Oui, avant c'était des ingénieurs, maintenant on passe à des flics.
Oui, en réalité c'est une sous-section de l'IGC. Quand on parle de l'IGC, on parle souvent des cataflics, mais
les cataflics. J'ai jamais entendu ça.
Ah bah c'est.
Les cataflics.
Tu fais pas partie du même monde.
En effet.
L'IGC.
J'ai des cheveux.
L'IGC. Oh putain.
Allez.
L'IGC va se mettre à arrêter de faire des belles arches pour un peu tout consolider. Mmh. On se met à faire parfois des arches en béton ou parfois carrément des injections. Donc injection de béton liquide dans une salle complètement, ce qui fait qu'après elle est complètement inaccessible et à jamais. Notamment, il y avait une très belle salle sous Montsouris qui s'appelait la plage Corse, où c'était une salle avec beaucoup de piliers et inondée d'eau. Et c'était vraiment très joli. Et aujourd'hui, ça n'existe plus, c'est complètement injecté. À côté de ça, ils vont aussi se mettre à essayer d'emmerder les cataphiles en bloquant complètement des accès à des salles ou des couloirs, donc en les murant. Et là où les cataphiles vont essayer soit de détruire ces murs, mais souvent ils n'y arrivent pas, soit creuser des chatières pour éviter ces murs-là. Notamment, une des plus belles chatières qui existait, c'était la chatière pour la salle des huîtres. Oui, c'est très thématique.
C'est la chatière pour la salle des huîtres.
Mais aujourd'hui, elle a été.
Toi, c'est quoi la plus belle chatière que tu
veux ? Ah, bah, la chatière des moules, c'est quand même genre plus sympa.
Voilà. Il y a eu pas mal de fêtes dans les années 80. Ça s'est relâché dans les années 90 où l'IGC a commencé à vraiment fermer la plupart des accès. Et dans les années 2000, et surtout avec l'avènement d'Internet, je pense, ça s'est redémocratisé. Et là, en ce moment, les katas, c'est un peu l'autoroute, parce que les plans n'ont jamais été aussi facilement accessibles, etc. Il y a des communautés, ça revient vachement à la mode.
Il y a des photos.
Voilà, tout le monde essaye de montrer ses plus belles photos.
Et puis on trouve des accès vachement plus facilement qu'avant. Moi, je me souviens, la dernière fois...
Non, je pense pas, non.
Bah non mais moi rien qu'avec Google, en regardant les photos de Cataphile et en utilisant Google Maps et Google Street, j'avais trouvé en un quart d'heure une entrée
Sur quel réseau ?
Je sais plus, bah je te l'avais montré en plus à l'époque. C'était juste en exploitant le fait que les mecs ils prenaient des photos d'eux comme des kékés dans la rue juste avant d'y aller et en sortant, et qu'avec Google Street
c'est vrai que c'est faisable pour certaines entrées qui sont très connues, notamment celle du 16e et certaines du 13e. Maintenant les entrées pour le 14e qui sont pas connus, les mecs montrent pas des photos avec parce que
non, ils font pas exprès hein. Enfin c'est juste qu'il y a des gens qui sont un peu dégeekés quoi.
Ouais. Alors enfin disons qu'on va dire qu'il y a les entrées d'autoroute et il y a les entrées peu connues, et les entrées peu connues elles sont pas grillées aussi facilement.
Quelle est l'amende en cas de...
Alors, l'amende d'ailleurs a commencé, je crois, dans les années 80, donc c'est assez récent. C'est la même amende que... Et c'est un arrêté préfectoral. C'est la même amende que si tu vas dans un parc la nuit.
Ah, au Bois de Boulogne, t'as pas le droit de... Ouais,
je crois que c'est 60 euros.
C'est pas cher.
Non, mais il y a une petite subtilité.
C'est moins cher que Disneyland.
L'IGC, s'ils veulent te faire chier, ils te font sortir par une sortie sur une voie ferrée, et là tu te prends une amende pour passage sur zone des SNCF, et là l'amende est beaucoup plus salée.
Ouais, enfin ils te font sortir eux et te font passer leur truc et te...
Ouais, alors je sais pas à quel point les gens qui ont eu ça se sont amusés à aller à faire marcher la justice pour ce genre de choses, mais ouais.
Non, mais c'est comme pour tout, malheureusement, ils ont trop de pouvoir sur la façon dont ils vont te foutre l'amende, et en fonction est-ce que t'es sympa ou est-ce qu'ils t'ont en grippe, ils vont te charger ou pas.
Moi, oui, tu voulais poser une question.
Ouais, sympa, hein. J'ai une double question de néophyte. J'ai du mal à me représenter une entrée des catacombes, c'est-à-dire est-ce que c'est en surface, est-ce que c'est en profondeur, ainsi de suite, et la taille. Et deuxièmement, dans quelle mesure elles sont grillagées, fermées
Alors, la plupart des entrées, ce sont des plaques. Faut pas les confondre avec des plaques d'égout déjà.
C'est au sol,
tu les ouvres et puis tu descends. Encore mieux, tu repères un moment où il y a des travaux, parce que pendant très longtemps il y a eu des câbles EDF, des câbles téléphoniques là-dedans, et de plus en plus ils les ont enlevés. Donc notamment il y avait une plaque qui a longtemps été ouverte rue de la Charrette, et c'était super sympa puisque tu n'avais rien à faire, tu enjambais la petite palissade, tu descendais, et puis la plaque était déjà ouverte, tu n'avais pas à la refermer.
C'est-à-dire que c'est quand tu parles d'une palissade, c'est pas à la vue de tout le monde, c'est tu passes un petit muret
Là, c'était parce que c'était en travaux, sinon, c'était à la vue de tout le monde.
Sinon, c'est que tu marches dessus.
Dans la... tout le monde.
Oui, tu marches dessus sans
savoir. Oui, tu marches.
Au moment où tu rentres, il faut quand même que ça soit éventuellement la grand-mère du coin qui passe, mais il ne faut pas qu'il y ait la UEFA.
Oui, alors la procédure normale, c'est tu arrives l'air de rien, pouf, tu utilises ta technique pour soulever la plaque.
Tu fais tes lacets.
Marteau d'égouttier ou mousqueton. Ouais. Tu soulèves la plaque, tu descends, le dernier qui descend, il remet la plaque, et pouf, ensuite vous descendez. Donc ça, c'est les puits à échelons. Le problème de ces puits à échelons, c'est que de plus en plus, l'IGC soit les soude, alors ça peut se dessouder éventuellement, soit coupe les échelons sur 10 mètres, et là, c'est un peu plus compliqué. Oui, Xil ?
Vos cataflics, ils entrent par les mêmes entrées que vous, ou ils ont des entrées vachement sécurisées
Alors, outre qu'ils peuvent rentrer par les mêmes entrées que nous, et notamment, il y a des entrées qui existent encore, mais où il y a des très beaux cadenas très difficilement violables pour... Donc là, on sait qu'eux, ils y passent. Sinon, il y a, à côté de la brille FFI, en fait, donc au centre du réseau, il y a une porte qui est à eux, et c'est leur entrée normale. Et c'est un endroit, si t'as pas peur de te mouiller les pieds, tu as accès à tout le réseau très rapidement. C'est-à-dire que c'est au milieu de toutes les autoroutes.
C'est pour ça qu'ils l'ont choisi d'ailleurs pour accéder.
Ils sont réservés la meilleure entrée. Quoi.
Ah ouais, c'est super.
Personne leur a soudé leur porte.
Je sais pas, y a rien.
Vous utilisez du matériel de grimpe type baudrier, corde
Alors ça dépend. Quand tu vas dans le 14e, en général, tu passes par la super entrée qui est l'entrée super connue qui sera jamais fermée. C'est une entrée en réalité qui est quasiment, c'est une entrée qui est quasiment au niveau de la Terre sur un kilomètre. Donc la dernière fois qu'ils l'ont injecté cette entrée là sur je sais plus une dizaine de mètres, bah, les cataphiles en ont rouvert une un peu plus loin. Il faut savoir que de toute façon cette entrée là ils la laissent ouverte parce que ils savent qu'ils peuvent pas empêcher les gens d'y aller. Ils préfèrent les canaliser, ils préfèrent que les gens restent dans le 14e et aillent pas trop faire chier dans le 16e. Donc plein de... Ils préfèrent en fait savoir où sont les gens et bon bah comme ça ils savent qu'ils rentrent par là, qu'ils vont à la plage et puis ils savent où ils peuvent les arrêter et compagnie, et il y a moins de risques pour tout le monde. Tu parlais de sinon, donc il y en a, ça c'est une des rares entrées qui sont à fleur de quasiment au niveau du sol. Donc là c'est un trou dans le sol et puis tu rentres.
Tu descends par exemple, tu parlais d'échelle, tu descends sur une profondeur de combien à peu près?
Alors quand tu descends par des puits à échelons, c'est 20 à 30 mètres.
Bah ça, je veux dire, rien que ça, ça mériterait d'avoir un petit baudrier et une baleine. C'est un petit système de corde.
Ouais, mais enfin, ouais.
Faut te l'accrocher en haut, quoi. Et tu passes pas des heures devant la plaque à descendre.
Non, mais tu veux avoir une baleine pour, en fait, dès que t'es fatigué, tu t'accroches.
Ouais, enfin, c'est 20 à 30 mètres, quoi. Oui, c'est fatigant, mais bon, tu le fais deux fois, hein, une fois en montée, une fois en descente. Mais c'est sûr que quand tu remontes, tu montes vachement plus vite les 10 premiers mètres que les 10 derniers. Hein. mais quand on parlait, il y a des cataphiles un peu plus optimistes qui eux ne font pas que le 13e, 14e, 15e, qui vont faire les petits réseaux où il n'y a plus d'accès. Je pense notamment aux compères qui sont des gens assez chouettes. Et eux, ils ont du matériel avec des treuils et compagnie, et donc ils ont même pas besoin de puits à échelons, quoi.
D'accord. Et j'avais une dernière question, c'était concernant le motif de l'interdiction d'aller dans les catacombes. Est-ce que...
Sécurité.
Pour éviter que les gens se tuent, en fait, ou se perdent.
Non, mais, sûr, mais j'allais... Voilà, ouais, enfin, ça pourrait être plusieurs choses, mais...
Je sais pas si c'est motivé dans l'interdiction, mais en tout cas...
Celle qui est simple et compréhensible par tous, c'est pseudo-justifié, c'est la sécurité, je pense.
Oui.
Par exemple, l'amende dont tu parlais, qui est par exemple de se balader dans certains parcs, par exemple, je sais que je dis ça très, très sérieusement, hein, le Bois de Boulogne aujourd'hui, les seules amendes qui sont capables de foutre, ce sont des amendes parce qu'en fait tu te balades en dehors des chemins, parce que concrètement, les prostituées installent un petit système de tente, donc il n'y a pas de problème de vis-à-vis d'actes sexuels en public.
Ouais, mais
donc,
c'est même pas fermé le Bois de Boulogne.
Ben, oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une amende dès que tu sors des chemins dans le Bois de Boulogne, qui est normalement l'amende qui correspond à ce dont tu parlais tout à l'heure.
Euros, hein.
Et en fait, c'est juste une interdiction. Si il n'y a pas de danger concrètement à sortir du chemin du Bois de Boulogne, enfin, je crois pas. Peut-être.
À part si t'aimes pas le Brésil.
Ouais, peut-être les MST, peut-être. Mais voilà, enfin, si tu veux, l'amende ne parle pas d'interdiction en tant que telle de danger, voilà, pour l'intégrité de la personne qui le fait.
Je pense qu'aucune n'est justifiée, en fait. Enfin, ils ont eu, ça merde pas de justifier.
Non, je pense pas.
D'accord.
J'ai oublié de parler d'un truc tout con sur les nouveaux cataphiles. Il y a eu toute la série des taggers. Je pourrais raconter une anecdote sympa aussi, mais je sais pas si on va avoir le temps. En tout cas, les taggers et compagnie, souvent des artistes, se sont amusés à faire parfois des fresques assez superbes dans certaines salles. Pareil, il y a tous les cataphiles qui s'amusent à aménager des salles, donc soit des salles vierges juste pour la beauté de la pierre, parfois d'autres avec des particularités. L'autre fois, en me baladant, j'ai trouvé un endroit que j'avais jamais pris le temps d'aller voir. Il y avait une salle où les gens se sont amusés à mettre une boîte aux lettres de la poste et un Minitel. Donc c'est...
Est-ce qu'il est connecté ?
Non, il n'est pas connecté.
Et la boîte aux lettres n'est pas relevée.
Ah, je sais pas parce qu'elle était vide.
J'imagine la pauvre postière.
Donc c'est rigolo, il y a des salles avec plein de choses. Et notamment, il y a ce qu'on appelle la galerie des promos. C'est chaque année, les promos des mines vont faire une fresque pour... voilà, en souvenir. Alors, ils avaient arrêté à un moment, et là j'en ai vu deux nouvelles la dernière fois que je suis venu, mais il y en a une qui a mal supporté l'humidité. Donc je sais pas ce que ça va donner.
Ils ont une très belle entrée d'ailleurs, quasiment en face du commissariat du 6e.
Ouais, mais
avec une porte qui descend direct sur un escalier, c'est royal.
Ouais, c'est super sympa, mais bon, pour nous, ça nous aide pas.
Oh, les salauds.
Ils le font de manière officielle, c'est-à-dire ils ont le droit de le faire.
Je sais pas exactement.
Je crois qu'ils ont un accès spécial à une partie du réseau qui est plus ou moins en dessous de leur école, parce que c'est aussi leur métier, qu'ils sont ingénieurs dans les mines.
D'accord.
Historiquement, c'est ça, mais aujourd'hui.
Ouais. C'est vrai que ça peut se pseudo-justifier. Mais...
Bon, et puis je pense qu'on n'a plus le temps. Je referai peut-être un jour une série là-dessus si ça intéresse les gens, avec notamment toutes les anecdotes rigolotes
Bah, je pense que
des Qatar ou du monde de l'exploration urbaine.
Un petit retour après,
On vous montrera les photos. Pierre à côté du fémur, Pierre à côté du tibia.
Voilà, et puis le but c'est quand même d'emmener l'équipe de l'apéro pour essayer de s'en débarrasser, pour avoir moins de concurrents dans la podcastosphère française.
Voilà.
Par hasard, bien que nous n'y incitons pas du tout, vous allez dans les catacombes, vous amusez pas à ramasser des os.
Ah non, oui, ça comme pour j'ai le dit coup, la dernière fois, c'est violation de sépulture, c'est une amende à 5 chiffres, c'est très mal de toute façon. Et si par inadvertance vous vous retrouviez là-bas, n'oubliez pas que de toute façon, il faut avoir une carte de bonne qualité, et que si possible la première fois... descendez-y avec un guide, ça coûte pas grand chose, c'est pas difficile d'en trouver en ce moment, c'est un peu l'autoroute. Faire le minimum de recherche pour trouver une carte et un guide, ça montrera que vous êtes des gens motivés et pas nécessairement des gros branleurs, donc voilà.
Ouais, n'y allez pas seul, sans être accompagné
une
de
fois en
personne
sortant,
qui a déjà fait l'expérience.
Une fois en sortant, on a rencontré un gamin sans carte, il savait pas trop où il allait, il cherchait une salle qui était censée être pas loin, qui était en réalité à l'autre bout du réseau. Il était à, je sais pas, 200 mètres de l'entrée. On a essayé de le convaincre de repartir avec nous, on a essayé de le convaincre de lui laisser une carte, mais non, il devait rencontrer des gens.
Allez, branlos. C'était le petit Grégory.
Oh, oh là là.
Tu l'as mérité, celle-là.
Merci, merci beaucoup. Bref, on vous fera peut-être un petit retour quand on aura fait notre petit expé. Cet épisode se termine donc. Un épisode un peu rude, un peu
donc
sec.
Pas culture.
Un peu, non, ce sera pour la prochaine fois.
Mais arrêtez de dire que c'est sec, c'est pas comme si on se bourrait la gueule d'habitude.
Non, mais je sais pas, non, mais.
Il y a une espèce de mythe qui se crée,
ça suffit. Annonce, il y a les pods.
C'est pas parce que pour toi, une bouteille de vodka, c'est pas grand chose, voilà, que pour les autres.
Exactement. Oui, mais une bouteille de vodka, c'est pas grand chose pour moi, mais une bouteille de vodka sur tous les autres réunis, c'est pas grand chose.
T'as
non
quand
plus,
même refusé la fin de ma bière parce que t'avais peur de déclencher un délirium très mince tout à l'heure, quoi.
Ouais.
Annonce.
C'est ce qui se passe en Allemagne, les déliriums très minces. Ici, c'est des déliriums bien épais.
Oh la vache! Oh mon dieu,
j'ai mis trois secondes
à la comprendre. Annonce. Il y a les Pod Radio Podcast Awards. Mine de rien, nous sommes nominés en meilleur duo ensemble, les meilleurs nouveaux duos et ensemble pour l'année
duo.
2011.
Duo.
Non, meilleur duo ensemble. Donc en gros l'équipe, quoi. En gros, on récompense l'équipe.
Duo slash ensemble.
En gros, il nous récompense pas sur le fond, ni sur la forme, ni sur le concept, mais plutôt sur les gens.
Sur la qualité.
Mais on est nominés, c'est tout.
Oui, on est nominés, donc il va y avoir des votes.
Et il y a qui contre nous?
Il va y avoir, je sais plus, faut regarder. Peut-être que des personnes, si tu poses la question.
Ouais, mais si, j'en connais quelques-uns.
Mais de toute façon, le Quadratour va rafler à mort parce que vu qu'ils ont annoncé là, leur. Bah, déjà, c'est...
Ouais, mais ils sont pas nouveaux.
Non, mais déjà, je pense qu'ils vont rafler à mort parce que de toute façon, ils font quelque chose d'excellent. Mais en plus, comme là, on a annoncé la fin du Quadratour.
Bah voilà pourquoi tu l'as pas mis en New York.
Mais attendez l'épisode 15. Attendez l'épisode 15, quoi.
Je pense qu'il y aura un effet. Hommage au Quadratour. En tout cas, donc, faudra.
D'ailleurs, on peut peut-être nous aussi leur rendre un petit hommage, parce que c'était super bien ce qu'ils faisaient.
Exactement, et c'est ce qui nous a beaucoup inspiré dans ce qu'on fait.
Surtout ceux qui n'ont jamais écouté.
Non, mais
Xil
et moi savons de quoi nous parlons. Et voilà. Hommage à.
Krilla aussi, je crois.
Hommage à David et à son équipe qui fait du bon boulot. Donc Pod Radio, vous allez sur Pod Radio et normalement on peut voter. Alors je sais pas quand est-ce que ce sera disponible. Il y aura des prix du jury et des prix du public, donc vous pourrez aller voter pour nous.
Et il y aura une cérémonie
Ce sera fait pendant le grand live de Pod Radio qui concentre tout plein de podcasts qui font un live de plus de 72 heures.
Et c'est quand ?
Poussière, c'est dans pas très longtemps, je sais pas très bien. On vous fera des news sur le site.
N'oubliez pas qu'au bout de 1000 likes, Micha montre
sa bague.
Sa bague, ah, elle a une superbe bague.
Qui est une bague geek.
Une bague.
Et à 2000, on installe une webcam centrée sur Micha.
Bang, une belle bague Space Invaders. Les prochains épisodes, le 15 qu'on va enregistrer dans la foulée, ça va être rude. Yaya va nous parler de photos, Krilla nous parlera de jeux de plateau et on parlera un peu de culture. Pour l'épisode 16, on aura comme invité Raptor, un ancien de chez Microsoft. Donc on continue un peu notre série d'interviews de salariés de grosses boîtes high-tech après Millie de chez Google. On aura quelqu'un pour discuter un peu des conditions de travail chez Microsoft, un peu de l'avenir de la boîte. Et aussi un dossier, lui, qui nous fera un dossier sur les nouvelles interfaces Kinect et tout ce qui se prépare. Pendant l'été, on fera aussi, moi je ferai peu de news, mais plutôt des dossiers de piouf. Je parlerai sûrement d'Alan Turing et peut-être un dossier bien vendeur sur les nazis. Les nazis et le surnaturel.
Ah, ça c'est bien.
J'aurais des choses à dire aussi là-dessus.
Ah, allez voter sur iTunes.
Vous avez toujours joué à Wolfenstein, c'est ça.
Allez voter sur iTunes, commentez sur le site www.basincast.com
pour gagner deux superbes cadeaux.
Exactement, dont je me souviens plus du titre.
Un superbe pour aller... et un pourri.
Vous pourrez aller voir sur le site. On peut nous retrouver sur Twitter, @basincast. Hein. Et voilà, pour participer au tirage au sort. Et on se retrouve dans 15 jours. Allez, courage. À la prochaine. Ciao tout le monde.
Salut.
Bye bye.
Bye bye.
Est-ce que ça te dirait de descendre? Découvrir les souterrains parisiens et faire carrière. Est-ce que ça te plairait de comprendre les mystères de cette obscurité glissante? Te laisser surprendre dans ces galeries, sous le parc Montsouris. Levant au couchant, jusqu'à l'abri de feuillantine, dans cet oubli, rue de la Tombissoire, tu me suis. Faire connaissance à la plage, tu seras surpris. Dans les catacombes de mon être, il y a d'étranges encorbellements, une dimension. Sous le cimetière des innocents, dans les catacombes de mon être, il y a des labyrinthes inquiétants, comme la salle Z du Val de Grâce, dans l'ambiance d'un bunker allemand. Dans les catacombes de mon être, je ne vois rien au-delà du halo, le monde a ses tours. Où je me perds. Est-ce que ça te dirait de te rendre à la fontaine des Chartreux, y faire un vœu, écouter l'eau claire? Est-ce que ça te plairait de m'attendre au carrefour des morts, assez fort et ramper sur des ossements? Dans ces galeries de cul-de-sac en chatière, du levant au couchant, saluer l'infortuné Philibert. Dans cet oubli, dépoussiérer les traces, remonter le temps et s'isoler de la surface. Dans les catacombes de mon être, il y a d'étranges encorbellements, une dimension imaginaire sous le cimetière des innocents. Dans les catacombes de mon être, il y a des labyrinthes inquiétants. inquiétant, comme la salle Z du Val de Grâce, dans l'ambiance d'un bunker allemand, dans les catacombes de mon être. Je ne vois rien au-delà du halo de mon aceto qui éclaire ce souterrain où je me perds. Je me perds, où tu te perds aussi. Dans cet oubli, dépoussiérer les traces, remonter le temps et s'isoler de la surface. Dans les catacombes de mon être, il y a d'étranges encorbellements, une dimension imaginaire sous le cimetière des innocents. Dans les catacombes de mon être, il y a des labyrinthes inquiétants, comme la salle Z du Val de Grâce, dans l'ambiance d'un bunker allemand. Dans les catacombes de mon être, je ne vois rien au-delà du halo de mon aceto qui éclaire ce souterrain. Je me perds.
La nuit, le commandant Jean-Claude Sarat et son équipe de volontaires patrouillent dans le réseau de galeries qui serpentent sous la capitale. Leur mission, surveiller les catacombes et faire respecter la loi.
C'est vrai qu'on se montre quand même assez tolérant à l'intérieur de ce réseau pour les gens qui ne viennent pas y faire des choses qui sont pas gentilles, hein, je modère mes propos. Mais par contre, on est intraitable pour les gens qui nous foutent le bordel et la merde à l'intérieur, parce que c'est pas concevable. Hein, donc vous avez un terrain d'aventure exceptionnel qui est formellement interdit, c'est certain. On vous laisse un peu la bride sur le cou. Soyez discrets, profitez-en un petit peu, n'en abusez pas. Et rappelez-vous quand même que c'est dangereux.